Bonjour tout le monde,
je suis Guillaume Aligné, on va essayer de démarrer maintenant pour rester dans les temps parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont devoir quitter le congrès. Donc là c'est mon plaisir de vous présenter Dr Julien Picard du CHU Grenoble qui est anesthésiste réanimateur et directeur opérationnel du centre César à Grenoble. Et il va nous parler au sujet de la standardisation du pré-briefing.
Merci beaucoup, merci de me donner l'occasion de communiquer effectivement sur cette thématique. Sur une session donc où on va parler de pré-briefing et de débriefing. Donc j'ai commencé par me poser la question de qu'est-ce qu'on entendait par standardisation et qu'est-ce qu'on entendait par pré-briefing. Effectivement, la standardisation, si on prend la définition dans les dictionnaires, c'est de ramener un produit à une norme, un modèle unique, ou en tout cas un nombre réduit de modèles, avec des caractéristiques définies qui permettent de le reproduire de façon calibrée. Et pour ce qui concerne le pré-briefing, là j'étais un petit peu plus embêté, puisque d'une part, on va parler, vous allez voir, tantôt de pré-briefing, tantôt de briefing, tantôt de préparation, pré-simulation, pour désigner des choses semblables. Et les premières questions qui se posaient par rapport à la standardisation, c'était est-ce que le pré-briefing est un produit, une production ? Est-ce qu'il est unique ? Est-ce qu'il peut correspondre à une norme ? Et est-ce qu'on peut définir des caractéristiques qui permettent donc d'aller vers sa standardisation ? Et puis, troisièmement, vers une standardisation du pré-briefing pour interrogation, pouvait correspondre à deux questions. Est-ce qu'on va vers une standardisation ? Et est-ce qu'il faut aller vers une standardisation du pré-briefing ? Donc j'essaie de répondre, ou en tout cas de vous apporter ma réponse, à une proposition de réponse à ces questions. Et si on s'intéresse en introduction au déroulement d'une séance de simulation, eh bien on a effectivement le cœur de la simulation proprement dite, avec le déroulé d'un scénario, quelles que soient les modalités de simulation utilisées. Et puis on va avoir la partie qui va précéder la simulation et la partie qui va succéder à la simulation. On a coutume de dire que le débriefing est essentiel à la séance de simulation et on a pour ça toute une série de phrases. Pas de simulation sans débriefing, le débriefing est l'âme de la simulation. Et dans la littérature, il y a de nombreuses descriptions des caractéristiques d'un débriefing idéal avec une caractérisation là aussi des différentes phases de ressenti émotionnel, d'analyse et de description factuelle puis d'analyse systémique des éléments du déroulé du scénario pour caractériser les étapes du débriefing. Si par contre on s'intéresse au briefing, eh bien on voit qu'en fait ce briefing il a longtemps été négligé, ou en tout cas il n'a pas du tout autant de caractéristiques précisées dans la littérature que le débriefing peut en avoir. Alors je vais essayer de vous décrire quelle pourrait être la définition de ce briefing, quel va être le périmètre, le champ d'action de cette nomination briefing ou pré-briefing, et quels peuvent être les objectifs et surtout les impacts sur le processus d'apprentissage ou sur la performance des participants à une séance de simulation de ce briefing. Alors j'ai commencé par vous dire que plusieurs appellations pouvaient désigner des choses semblables, et effectivement, quand on s'intéresse à la littérature, qu'elle soit francophone ou anglo-saxonne, eh bien on voit que sont désignées tantôt par le terme briefing, tantôt par le terme pré-briefing, les phases qui vont précéder la séance de simulation proprement dite. Et dans ces phases, on va pouvoir intégrer énormément d'éléments, les éléments, on va dire, en amont de la journée même de simulation ou du déroulé du scénario, qui peuvent là comporter des prérequis théoriques, des prérequis techniques, la définition même du public cible prend alors toute son importance, et on a à notre disposition toute une série d'outils, qu'il s'agisse de modules de e-learning, d'une bibliographie avant la simulation. Cette notion de briefing, de pré-briefing, elle peut désigner l'accueil, c'est-à-dire le moment où on va faire entrer dans le périmètre de la simulation les participants à la séance de simulation. Et il peut également désigner le moment ultime avant la séance proprement dite, où on va donner des consignes relatives aux patients, qu'il s'agisse d'un mannequin, qu'il s'agisse d'un acteur, ou en tout cas à la situation clinique à laquelle vont être confrontés les apprenants. Donc ces appellations vont désigner tous ces éléments, et celle qui semble finalement la plus juste, en tout cas la plus large, c'est celle de préparation pré-simulation, puisqu'elle va désigner toutes ces étapes qui vont précéder la simulation et pour lesquelles on va essayer de caractériser les objectifs et les impacts en termes de processus d'apprentissage et de performance au cours de la séance de simulation. Alors, la préparation de ces outils d'assistance au raisonnement, elle va permettre là aussi de se focaliser sur certaines compétences qu'on souhaite évaluer ou développer au cours de la séance de simulation. Et on va là aussi, dans la littérature, désigner tantôt le terme de briefing général pour parler de l'accueil ou de briefing spécifique pour parler des éléments cliniques avant le démarrage du scénario. Donc, il est difficile de définir précisément, ou en tout cas de donner un périmètre à cette appellation de pré-briefing, et on pourra en discuter si vous le souhaitez. Je trouve que le terme de préparation pré-simulation est probablement ce qui englobe de façon le plus juste tous les éléments qui contribuent au déroulé de la séance. Quels vont donc être les objectifs de cette préparation pré-simulation? À quoi est-ce que ça sert, et pourquoi est-ce qu'on va essayer de la caractériser et d'aller donc vers une standardisation? Eh bien, l'objectif va être de présenter et de clarifier le processus de la séquence de simulation, c'est-à-dire de permettre la simulation, tout simplement, et pour permettre cette simulation, il va falloir créer un contexte propice à ce processus d'apprentissage, un contexte sécurisé, tant sur le plan émotionnel que sur le plan technique, par l'absence de patients, ou sur le plan pédagogique, en intégrant des outils qui peuvent permettre d'atteindre les objectifs qu'on aura définis à l'avance. L'idée va être de permettre d'améliorer la qualité du processus d'apprentissage, et on va voir que finalement on a très peu de choses dans la littérature qui s'intéressent de façon objective et méthodologiquement solide à ce briefing et à ses conséquences sur ce processus d'apprentissage. Alors, ce briefing ou ce pré-briefing ou cette préparation pré-simulation, elle va avoir comme objectif de présenter toute une série d'éléments, de présenter en premier lieu les objectifs pédagogiques. Et c'est là qu'il va être extrêmement important de présenter aux participants la performance attendue. Qu'est-ce qu'on attend d'eux en étant précis sur ce qu'on attend d'eux? Est-ce qu'on attend d'eux le développement d'une compétence spécifique, technique ou non technique? Est-ce qu'on attend d'eux la mise en œuvre de compétences déjà acquises précédemment? Est-ce qu'on attend d'eux la validation d'un processus pédagogique? Et donc, est-ce qu'on se situe dans une stratégie d'évaluation, de formation et d'évaluation, parfois éventuellement sanctionnante? Donc il faudra préciser, au-delà de la performance attendue, les éventuelles modalités d'évaluation et de notation, de validation du processus, si on souhaite que les objectifs pédagogiques soient compris par les participants. Deuxième chose qu'on va présenter, c'est l'environnement au sens large. L'environnement, tout d'abord du simulateur, là aussi au sens large, qu'il s'agisse d'un mannequin, d'une situation, d'une pièce, d'un objet ou d'un acteur, et décrire ainsi les possibilités et les limites de la simulation. C'est cet élément qui permettra d'obtenir l'adhésion des participants et donc d'avoir le plus de chances d'atteindre des objectifs pédagogiques. Présenter les outils utilisés qui peuvent être spécifiques à la simulation ou non, qu'il s'agisse d'un chariot avec des médicaments à l'intérieur, qu'il s'agisse d'un outil cognitif, on va en reparler tout à l'heure, et de décrire également les ressources qui vont être disponibles, ressources matérielles et ressources humaines. Est-ce qu'on a la possibilité d'appeler à l'aide et de quelle aide est-ce qu'on peut disposer, de combien de participants est-ce qu'on va disposer? Il faudrait également présenter dans le cadre de l'environnement le recours à la vidéo et obtenir à ce moment-là le consentement, l'assentiment des participants. Et décrire également des éléments qui pourraient perturber les participants, tels que ce qu'il y a derrière une vitre sans teint. Donc c'est le moment, lors de cette préparation pré-simulation, de faire visiter l'intégralité du lieu et de l'environnement de simulation en montrant qu'est-ce qu'il y a derrière la vitre sans teint. Voilà, il y a rarement un secret, il y a souvent le pilote du simulateur et parfois un instructeur, mais il n'y a pas le chef de service, il n'y a pas la famille du participant, il n'y a pas de caméra avec diffusion en direct sur Internet, mais c'est important de le montrer aux apprenants à ce moment-là, et ça fait partie des objectifs de ce pré-briefing. On va également présenter les différents participants à la séance de simulation, les apprenants eux-mêmes, les encadrants, en définissant le rôle de chacun. Et cette présentation va permettre d'aboutir à la définition de règles de fonctionnement avec les classiques règles qu'on va énoncer au cours de ce briefing, la confidentialité, l'absence de jugement et l'atmosphère de respect et de confiance. Ces éléments vont permettre d'établir un contrat Et pour finaliser ce contrat, le périmètre des présentations intégrera également le déroulement chronologique précis de la séance, combien de scénarios, combien d'ateliers, est-ce qu'il y aura des pauses, à quel moment, et les horaires prévus et respectés. Ça participe également à l'investissement des participants dans la séance. Et la présentation du scénario, qui sera le dernier élément, sera la partie qui permettra de contextualiser la séquence de simulation proprement dite. Donc tous ces éléments du briefing ou pré-briefing ou de la préparation pré-simulation vont permettre d'aboutir à l'établissement d'un contrat fictif. Et ce contrat fictif est un élément déterminant du réalisme et donc de l'engagement des participants à la séance de simulation. Réalisme qui est de plusieurs composantes, réalisme émotionnel, réalisme conceptuel et réalisme physique, qu'il s'agisse d'éléments de l'environnement ou de la situation clinique qu'on va représenter aux participants. Alors une fois qu'on a défini ou qu'on a essayé de donner le périmètre des objectifs de ce pré-briefing, de cette préparation pré-simulation, quel peut être l'impact de cette préparation sur la motivation et l'engagement des participants, sur la confiance, sur cette atmosphère de sécurité, sur cette capacité à établir un contrat, et in fine, quel va être l'impact de cette préparation pré-simulation sur la séance de simulation elle-même, c'est-à-dire sur les compétences que vont développer les participants et sur le processus d'apprentissage. Alors, pour cette préparation pré-simulation, on a à notre disposition de nombreux outils. Je vous ai parlé de certains nombres d'outils qu'on peut utiliser en amont même de la journée de simulation, qu'il s'agisse de références bibliographiques, de recommandations ou de cours auxquels auront assisté en direct ou par e-learning les participants. On peut disposer de diaporamas plus ou moins commentés, de démonstrations par les experts en direct ou avec des vidéos. Et vous allez voir que dans certains papier de la littérature, des auteurs se sont intéressés à comparer ces différentes modalités de préparation pré-simulation et d'essayer de mesurer leur impact sur le stress, sur les compétences et sur le processus d'apprentissage. Et donc, in fine, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être l'impact sur le stress et l'anxiété des participants et leur performance le jour de la simulation et ultérieurement à travers le processus d'apprentissage. Alors, quand on essaye de regarder dans la littérature ce qu'on a sur ce sujet, on voit qu'on a une littérature qui est essentiellement riche sur ce qui va concerner les études en soins infirmiers pour nos collègues nord-américains et canadiens, et qu'il y a effectivement des papiers qui vont s'intéresser au rôle du pré-briefing sur les raisonnements critiques, sur le jugement clinique au décours de séances de simulation. Et certains auteurs se sont intéressés notamment à l'évaluation des participants en termes de compétences acquises au cours du scénario de simulation et de performances évaluées à travers des grilles en fonction du pré-briefing qui était utilisé pour préparer la séance. Alors vous avez ici effectivement une étude descriptive uniquement, donc, dont on peut discuter là aussi la solidité méthodologique, qui avait été menée auprès d'une quarantaine d'étudiants en soins infirmiers sur un scénario de défaillance cardiaque et où ils s'étaient intéressés à l'auto-évaluation d'une part par les participants de l'apport pédagogique du pré-briefing, donc, ça reste du Kirkpatrick 1, et ils s'étaient intéressés également à l'évaluation par les encadrants à travers des grilles d'évaluation de la performance des apprenants. Et ils ont montré dans ce papier, là encore purement descriptif, que la contextualisation réalisée au cours du pré-briefing permettait d'améliorer la performance des apprenants, avec donc là deux groupes randomisés, où ils avaient d'un côté un pré-briefing qui intégrait la présentation précise du cas clinique et les éléments que je vous ai décrits en introduction, et un autre pré-briefing beaucoup plus classique, où ils avaient uniquement sur une feuille de papier les éléments qui allaient leur permettre de suivre la séance de simulation. Et ils ont montré une amélioration de la performance de leurs apprenants et de l'évaluation des participants sur l'apport pédagogique de ce pré-briefing. Si on s'intéresse toujours aux modalités de préparation, dans ce papier un peu plus solide sur le plan méthodologique, puisqu'il s'agissait d'une étude randomisée contrôlée en aveugle, une vingtaine d'étudiantes infirmières ont participé à un scénario de prise en charge simultanée de 3 patients, où les objectifs pédagogiques étaient de développer notamment des compétences non techniques, de priorisation des tâches et de prise de décision. Et ils ont comparé 3 méthodes de préparation pré-simulation avec comme critère de jugement l'évaluation des compétences techniques d'une part, non techniques d'autre part. Eh bien, ils ont montré donc les trois modalités de préparation pré-briefing étaient les suivantes. Un groupe bénéficiait de la lecture de recommandations sur les pathologies que présentaient les trois patients dont elles allaient à s'occuper. Un autre groupe avait à sa disposition, en amont de la séance de simulation, un diaporama commenté. Et un troisième groupe avait à sa disposition une démonstration de prise en charge de trois patients présentant ces pathologies-là par un expert. Et ils avaient donc la possibilité de visualiser cette vidéo avant la séance de simulation. Ils ont donc mesuré les compétences évaluées à travers des scores de compétences au cours de la séance de simulation sur ces trois groupes. Et si ils ont montré effectivement une amélioration de ces scores de compétences après la séance de simulation dans le groupe qui bénéficiait de la démonstration par l'expert et dont le score était supérieur à celui obtenu par le groupe qui bénéficiait du diaporama commenté, qui était lui-même supérieur, statistiquement significatif, au score obtenu par le groupe qui ne bénéficiait que des recommandations à lire avant la séance de simulation. Donc on a déjà des premières indications sur l'impact que peuvent avoir les modalités de préparation déjà sur les compétences observées au cours d'une séance de simulation, qu'elles soient techniques ou non techniques. L'effet qui nous intéresserait, c'est vraiment l'effet sur la performance, performance au cours de la séance de simulation et performance au-delà dans l'application des connaissances acquises, techniques ou non techniques, au cours de la séance de simulation. Dans ce papier, toujours sur des étudiants en soins infirmiers, les auteurs sont intéressés à l'impact du pré-briefing sur la performance et sur leurs compétences en termes de compétences non cliniques, notamment jugement clinique, au cours d'une séance de simulation. Et ils ont randomisé un pré-briefing classique versus un pré-briefing dit structuré. Le pré-briefing classique comportant l'essentiel des éléments que je vous ai décrits en introduction, donc une présentation du matériel disponible, de l'environnement, du rôle de chacun, des objectifs pédagogiques de la séance et ensuite de l'état du patient dont ils allaient s'occuper au cours de la séance. Et le pré-briefing structuré comportait, lui, des éléments pédagogiques tels que, alors vous êtes certainement familier avec certains d'entre eux, tels que la réflexion guidée avant l'action, donc le fait de les faire se questionner sur l'attitude qu'ils auraient s'ils étaient confrontés à une situation clinique donnée, et les faire réfléchir à ça avant la séance de simulation. Du concept mapping, qu'on peut traduire par de la cartographie conceptuelle, hein, donc là aussi, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces éléments-là, mais c'est la formalisation sous forme d'une cartographie de certains concepts et de leurs interactions avec des flèches dans un sens ou dans les deux sens entre les différents concepts. Et enfin, le troisième élément qu'ils utilisaient, c'était des grilles de pré-briefing qui permettaient de s'assurer que toute une série d'éléments avaient bien été cochés avant d'entrer dans la séance de simulation. Et donc, ils ont comparé chez leurs 76 étudiants les performances au cours de la séance de simulation en fonction du type de pré-briefing utilisé, structuré ou classique, sur un scénario de douleur thoracique post-opératoire. Ils ont montré que, alors désolé, les tableaux sont un peu complexes, que pour ce qui s'agissait des compétences évaluées, donc vous avez ici les scores obtenus en fonction des groupes, groupe contrôle ou groupe expérimental, et donc ils ont montré que les scores obtenus, quelles que soient les échelles d'évaluation de compétences, de communication, de jugement clinique, de sécurité du patient, donc quelles que soient leurs échelles d'évaluation utilisées, ils ont montré une amélioration des scores qui sont supérieurs dans le groupe expérimental, donc pré-briefing structuré, par rapport au groupe contrôle, avec une significativité statistique. Et ils ont également obtenu une meilleure évaluation, donc on revient à du Kirkpatrick 1, de leurs participants sur des échelles de cotation, là aussi, de la qualité du pré-briefing, avec, là aussi également, des scores bien meilleurs, bien supérieurs dans ce groupe expérimental par rapport au groupe contrôle. Donc, ils ont montré une meilleure adhésion, une meilleure notation des participants en termes de qualité et apport pédagogique du pré-briefing et une amélioration des compétences sur le processus. La question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que cette amélioration des processus cognitifs qui sont censés améliorer la capacité à atteindre les objectifs pédagogiques se traduit en termes de compétences techniques également et de processus d'apprentissage pour son application ultérieure dans la pratique clinique. Dans ce papier, cette fois-ci sur une série de jeunes médecins, 46 jeunes médecins répartis en 3 groupes, les auteurs se sont intéressés au cours d'un scénario d'arrêt cardiaque pendant un transfert interhospitalier, aux performances techniques et non techniques, et ils ont réparti leurs médecins sur 3 groupes en fonction des éléments dont ils disposaient au cours du pré-briefing ou de leur briefing. Vous voyez qu'ici, ils parlent de briefing. Un groupe bénéficiait de la lecture des recommandations sur l'arrêt cardiaque. Un autre groupe bénéficiait d'un briefing d'équipe avant de commencer la séance de simulation. Et le troisième groupe était dit contrôle et ne bénéficiait d'aucun de ces 2 outils. Et en termes de critères de jugement, ils sont intéressés à toute une série de compétences techniques. Vous voyez, par exemple, le temps avant de démarrer la première compression, le premier massage cardiaque, le temps avant de démarrer la ventilation, le temps avant de la première administration de médicaments ou le temps avant la défibrillation. Et ils n'ont pas observé de différence statistiquement significative entre les différents groupes, groupe bénéficiant de la revue, de la littérature, groupe bénéficiant d'un briefing d'équipe ou groupe contrôle. Par contre, lorsqu'ils sont intéressés à une compétence non technique classique, l'appel à l'aide, eh bien, ils ont montré que le groupe qui avait bénéficié, si je peux dire, de la revue de la littérature, avait mis statistiquement, de façon significative, plus longtemps à appeler à l'aide, et que cela s'était traduit par un temps d'interruption du massage cardiaque plus important que les groupes qui avaient bénéficié du briefing d'équipe et même que le groupe contrôle. Alors, ça amène à plusieurs réflexions. Première constatation, c'est que les éléments du briefing, du pré-briefing, ont un impact sur la performance, y compris sur des compétences non techniques. Et deuxièmement, c'est que ça questionne sur les éléments théoriques et cognitifs qu'on va fournir aux apprenants avant la séance de simulation et qui peuvent là aussi orienter vers les gestes qui vont être réalisés pendant la séance de simulation. Alors, on peut, pour améliorer ces pratiques ou pour s'aider dans ce processus de pré-briefing, utiliser des outils d'implémentation. On a parlé effectivement de la réflexion guidée, qui consiste donc à faire réfléchir en amont, avant la séance, les participants sur l'attitude qu'ils auraient et les démarches qu'ils entreprendraient s'ils étaient confrontés à telle situation et ensuite de les mettre dans la situation donnée. La cartographie conceptuelle que je vous ai décrite, mais également d'autres outils dont mes collègues vont vous parler au travers des prochaines présentations, que ce soit les aides cognitives, que ce soit la relaxation. Alors, Marc Lillo va vous parler de la relaxation avant le débriefing, mais on pourrait parler aussi de la relaxation avant le briefing ou juste après le briefing. Et il y a d'autres outils dont je vais vous parler très rapidement, c'est la visualisation mentale. Certains de nos collègues chirurgiens, par exemple en chirurgie cardiaque, visualisent l'intervention avant la réalisation de leur geste opératoire et avant d'entrer dans un état de concentration pendant la réalisation de leur geste. C'est le cas également dans d'autres domaines complètement différents, par exemple les pilotes de Formule 1, les skieurs qui vont visualiser avant leur course le parcours qu'ils ont appris par cœur. Et il y a même maintenant des dispositifs de stimulation cérébrale lors de la réalisation d'un geste chez certains athlètes, des lanceurs de javelot par exemple, qui ont des séances de stimulation magnétique cérébrale au moment où ils visualisent leur geste de façon répétée pour essayer d'améliorer leur gestuelle. Enfin, dernier point, et c'est sur celui-là que je vais conclure, c'est la communication dite positive qu'on peut rapprocher, pour ceux qui connaissent, de l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire tous les éléments qui vont contribuer à être positif dans l'énoncé d'une simple phrase ou d'une simple proposition. Et je voulais vous présenter à ce titre-là un travail qu'on réalise à Grenoble avec Jean-Noël Lévin, qui est l'un de nos chefs de clinique, et qui s'intéresse effectivement à la communication thérapeutique avant une situation critique. Ce sont des travaux dont on espère vous présenter les conclusions définitives l'année prochaine. Et donc, au cours d'un scénario de laryngospasme pédiatrique, on a fait passer une trentaine d'équipes anesthésistes, infirmiers anesthésistes, sur un scénario de laryngospasme avec un briefing qui était randomisé. Briefing qui, en termes de contenu, était calibré avec des éléments objectifs communs, mais qui, dans les modalités, faisait appel ou à la communication positive ou à la communication non positive. Et on évaluait 2 choses, la performance clinique, à travers des grilles spécifiques, élaborées grâce à des experts par une méthodologie Delphi, et c'est le critère de jugement principal dont on n'a pas encore les résultats. et évaluation également du stress avec plusieurs éléments d'évaluation, des questionnaires, mais également une mesure du stress dit physiologique avec la variabilité des intervalles RR, donc la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque. Et donc, ce que je vais vous montrer, ce sont ces deux modalités de briefing et puis ces premiers résultats. Si on peut envoyer cette première séquence vidéo.
De réveil pour voir un petit que j'ai endormi tout à l'heure et je vais vous laisser la salle avec le petit qu'on a endormi qui se passe super bien. On l'a endormi pour une circoncision, il a 7 ans, il fait une vingtaine de kilos, il était bien tonique au départ mais avec une induction au sévo ça s'est super bien passé. J'ai pu lui mettre son masque laryngé, le perfuser.
Et puis si on peut démarrer la deuxième vidéo s'il vous plaît. Ça veut pas. Donc on a transmis exactement les mêmes éléments objectifs concernant la prise en charge du patient, mais où déjà la présentation du médecin est beaucoup moins ordonnée, avec une tenue qui est un peu débraillée, qui est sale, où le médecin leur présente le cas clinique mais sans les regarder, en regardant quasiment tout le temps par terre, où il est interrompu au bout de 10 secondes par son téléphone qui sonne, qui l'appelle en salle de réveil où il dit qu'il peut pas être partout en même temps. Et donc le message sur le plan objectif est exactement le même, mais les modalités de délivrance ne sont pas les mêmes. Bon, c'est pas grave. Par contre, j'arrive pas à avancer non plus sur les diapos.
Julien, on va être un peu limite en
ouais,
temps pour la
c'est pour
la
ça
suite.
Que je passe. Donc voilà, juste vous montrer qu'on a mesuré ce stress et qu'on a montré que dans le groupe qui bénéficiait de la communication positive, on avait une réduction du stress physiologique avec ces modalités. Donc en conclusion, briefing, pré-briefing, préparation, pré-simulation sont des termes utilisés pour désigner cette partie de la simulation. Le lien doit être extrêmement étroit avec les objectifs pédagogiques. Est-ce qu'on va vers une standardisation de ces objectifs et de ce pré-briefing ? Oui, certainement. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, certainement, puisque ces modalités de réalisation ont un effet sur le ressenti émotionnel et au-delà sur le processus d'apprentissage et la performance, avec à notre disposition, et vous allez en parler par la suite, de nombreux outils d'implémentation. Je vous remercie.
Merci. Désolé déjà pour mon retard. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Ben pendant que Marc et Lou sont en train de commencer à s'installer, peut-être moi j'ai juste une petite question. Donc là j'ai vu que vous posez beaucoup de questions maintenant pour vos propres pré-briefings. Et jusqu'à présent, vous n'avez rien de standardisé qui était fait chez vous ?
Pour l'instant, alors la standardisation, elle comportait simplement d'aborder 4 items. La présentation des participants, la présentation des lieux et la définition de ce qu'on appelait le contrat avec les modalités
d'accord.
classiques.
Voilà. Oui, ce que je pense que c'est entre guillemets qui est recommandé au sens...
Voilà.
D'accord. Bah, on verra sur la suite alors.
Ouais,
merci bien. Plus.